Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, les très jeunes enfants surdoués. Ils ont entre 6 mois et 6 ans et déjà les parents, l'entourage trouvent que cet enfant-là n'est pas tout à fait comme les autres, qu'il comprend tout plus vite et ressent les choses de la vie plus profondément. Ces tout petits enfants-là peuvent-ils déjà être détectés comme précoces ou surdoués? Et puis dans ce cas, comment élever ces enfants différents qui se posent parfois des questions existentielles dès 4 ans, à quoi jouer avec un petit surdoué aussi? Comment assurer son autorité de parent avec un enfant qui vous dépasse? Si vous avez dans votre famille un enfant dont vous soupçonnez des aptitudes hors du commun pour son âge, appelez-nous dès maintenant pour dialoguer avec nos invités. Pour en parler, je reçois la psychologue Monique de Kermadec et psychanalyste. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes spécialiste des enfants surdoués. Vous venez de publier avec Sophie Carquin le petit surdoué de 6 mois à 6 ans. 6 mois, hein, j'ai bien dit 6
oui,
mois.
Oui, tout à fait.
Vous affirmez qu'on peut déjà se rendre compte des aptitudes hors du commun d'un bébé en
couche-culotte. Tout à fait, on remarque l'éveil, surtout par le regard, la façon de regarder, de s'intéresser au monde et aux personnes autour de lui.
Sophie Carquin, vous êtes journaliste, vous avez publié de nombreux ouvrages sur les enfants, alors là, plutôt sur les enfants, je dirais, ordinaires. Hein,
Oui, et en particulier des histoires pour les enfants. Ordinaire et surdoué d'ailleurs aussi.
Être parent d'un enfant qui sait tout, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Hein. Vous avez rencontré des familles, des parents.
Oui, j'ai rencontré pas mal de parents pour qui c'était un peu là, par moments, ils soupirent, ils sont accablés.
Grande fatigue.
Mais bon, fiers quand même. Hein.
Alors justement, que faire de cette fierté, hein, surtout pour ne pas abîmer l'enfant, ne pas le mettre sous pression, ne pas le surstimuler. Surtout les voisins, les voisines, appelez-nous dès maintenant pour poser toutes vos questions et nous exposer les cartes de votre famille au 33 1 84 22 71 71.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés?
Bah, on met une graine dans l'oreille et après ça tombe dans le ventre.
Les garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les roses.
Ça, c'est une métaphore.
Ah non, c'est un euphémisme.
Euphémisme. Mais pas du tout, c'est une coquille-grue.
Je crois qu'ils doutent de quelque chose.
Ça, c'est un euphémisme.
Sans doute. Mais coquille-grue, c'est quoi exactement?
Une sorte de bilvesée.
Elle est mignonne.
Monique de Kermadec, oui. Première question essentielle, à quoi reconnaît-on précisément un enfant précoce, voire surdoué? Enfin, je devrais dire un bébé, puisque votre livre concerne précisément les enfants de 6 mois à 6 ans.
Tout à fait, dès les premiers jours de la vie, on constate une relation particulière avec l'enfant, une intensité dans son regard, une attention à ce qui se passe autour de lui, alors que certains bébés, par exemple, sont indifférents, ou tout au moins ne s'occupent que de la personne directement en face. Lorsqu'un bruit, lorsqu'une présence entre dans la pièce, par exemple, l'enfant se retourne. Plus tard, ce sera bien sûr par un éveil moteur, par une avance sur le développement moteur de l'enfant. Mmh. Et puis, nous verrons l'apparition du langage. Mais ça, déjà, il s'agit d'enfants plus proches des 1 an.
Alors, quand vous dites le développement moteur, ça veut dire quoi? Un enfant précoce, voire surdoué, c'est un enfant qui marche plutôt que les autres?
Très souvent. Ce n'est pas obligatoire. Il y a certains enfants très précoces qui n'ont pas marché plus tôt, mais on constate qu'effectivement, un grand nombre vont se tenir debout et vont commencer à marcher autour des 1 an, ce qui est quand même déjà assez exceptionnel.
Oui, mais un enfant qui marche très tôt n'est pas pour autant précoce ou surdoué.
Non, mais le parent...
Je veux dire du point de vue du cerveau.
L'important n'est pas d'arriver tout de suite à une étiquette de surdoué. L'important, c'est d'observer et de tenir compte de chaque petit détail qui permettront justement de mieux comprendre l'écart qui existe dans le développement de cet enfant et son avance.
Ouais. Sophie Carquin.
Oui, très tôt, c'est ce qu'on a indiqué dans le livre, il y a une phase d'éveil plus importante chez le bébé, de 8 minutes à peu près, enfin. Et cette phase d'éveil...
8 minutes, c'est-à-dire...
voilà, 8 minutes de concentration, d'éveil.
Chez un bébé de 6 mois, 8 mois,
oui,
c'est ça?
Très tôt, dès les premières semaines. Et en fait, cette phase d'éveil va contribuer à constituer une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que, comme ce sont des enfants qui apprennent tout très vite, ils vont être de plus en plus en avance sur d'autres enfants. Et on l'a aussi indiqué dans le livre, je crois, justement, ils ont une sorte d'avance de 2 mois à peu près sur le plan moteur. Oui. Et ce que Monique disait, moi je l'ai beaucoup entendu de la part des parents, c'est-à-dire une sorte d'éveil sensoriel. Par exemple, ce sont des bébés qui entendent des choses que d'autres n'entendent pas. Par exemple, le coassement des crapauds, qui sentent sur le plan olfactif aussi... qui arrive à reconnaître des odeurs que d'autres ne reconnaissent pas. Enfin, c'est assez sidérant.
C'est comme si tout leur sens était en éveil et qu'il y avait là une capacité à recevoir qui était beaucoup plus importante, plus grande que les autres.
C'est ça, recevoir les informations du monde extérieur. Recevoir. Alors qu'en théorie, un bébé est quand même très centré sur lui-même.
Au départ, il est vrai que tant que l'enfant n'a pas accès à la parole, l'adulte a l'impression que l'enfant, n'intègre pas toutes ces informations. Mmh. Or même un enfant, je dirais tout à fait normal et en apparence passif, intègre un certain nombre d'informations. Mmh. Mais nos petits surdoués, eux, en font aussi quelque chose et très tôt.
Vous parlez d'une sorte de fulgurance. À quoi vous pensez dans les témoignages des familles que vous avez recueillies?
Les parents font part vraiment d'un étonnement, d'avoir été sidérés, d'avoir été émerveillés.
Oui, c'est comme s'ils allaient directement, ils recevaient par flash et ils restituaient par flash des informations.
Vous pensez à des anecdotes en particulier qu'on vous a racontées dans tous les témoignages que vous avez recueillis?
Tout à fait. Les parents retiennent beaucoup cela parce que plus tard, il est vrai que quand l'enfant grandit, on a des tas d'informations qui finissent par entrer dans des habitudes. Or, tout au début, le parent est émerveillé par ce que fait l'enfant, inattendu. Ça peut être de reconnaître certains sons, c'est-à-dire de pouvoir identifier et de bien faire la différence entre les personnes au travers des voix.
Justement, on parlait tout à l'heure du sens olfactif. Moi, je me rappelle très bien d'une maman donc qui m'a confié que son fils il n'avait pas 4 mois, mais il avait 15 mois, je crois. Ils allaient dîner chez une amie qui aimait beaucoup faire la cuisine, et il a repéré, il a dit ça sent le basilic. Et donc, il connaissait le mot. Combien d'enfants, je ne sais pas, à 12 ans, ne connaissent pas l'odeur du basilic. Donc, ce sont des choses immédiates. Ouais,
encore faut-il avoir été en contact très jeune avec ce genre de choses. Là aussi, il y a un
vrai
lien
Mais
alors, il y a une question qui nous est posée sur les réseaux sociaux par Mahamat, qui est un Djamena au Tchad. Est-ce que tous les enfants surdoués sont des enfants précoces? Et est-ce que celui qui commence à parler tôt est surdoué? Alors d'abord, est-ce que tous les surdoués sont des enfants précoces? Alors, peut-être faut poser la question dans l'autre sens.
Oui, la question est très importante parce qu'on hésite souvent entre les termes.
Oui.
Surdoué a été un des premiers termes employés, mais sa connotation élitiste a fait peur à certains qui ont préféré en France utiliser le mot précoce. Les anglo-saxons, eux, parlent de gifted, qui fait allusion à un talent qui sera là pour être développé. Voilà. Et surdoué, oui, fait peur. Moi, je me rends compte aussi par rapport aux adultes, par exemple. C'est un mot que l'on a du mal à s'approprier. Or, un enfant précoce ou un enfant surdoué, c'est la même chose.
Ah, donc c'est la même chose. Donc c'est synonyme. On n'est pas précoce, voire surdoué.
Il y a un choix.
C'est pas un stade au-dessus, surdoué?
Non, nous ne parlons pas de génie. Nous parlons de capacités exceptionnelles. Bien évidemment, nous ne savons pas si l'enfant deviendra Pic de la Mirandole, Léonard de Vinci ou Einstein.
Le problème avec précoce, Monique, peut-être abonderas dans mon sens. On sait bien, c'est qu'on a l'impression que d'autres vont pouvoir rattraper.
Exactement.
Ils ne sont que précoces.
Voilà.
Donc les autres, or on vient de le dire, ils ont une phase d'éveil plus importante.
Ils continuent toujours de garder de l'avance.
Ils continuent toujours.
Donc un bébé précoce devient un enfant surdoué.
Oui. Oui, c'est ça.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous les avons appelés petits surdoués.
Oui, on a.
Les parents s'interrogent-ils avant l'entrée à l'école maternelle? Ou finalement, il raconte a posteriori que oui, on avait bien vu finalement, maintenant qu'on y regarde bien, que tout petit, tout bébé déjà, il n'était pas comme les autres.
Dans les témoignages en tout cas que j'ai pu recueillir, évidemment, il s'agissait de parents qui avaient fait tester leur enfant et donc ils se sont souvenus a posteriori, enfin rétroactivement, de ce qui s'était passé dans la toute petite enfance. C'est vrai que les parents s'intéressent, et c'était notre pari justement, de dire qu'il faut s'intéresser le plus tôt possible avant l'entrée à l'école, parce que...
Mais pourquoi finalement ?
Pourquoi
se poser toutes ces questions-là avant l'entrée à l'école ?
Pour favoriser l'éveil, bien sûr. Mais je pensais à une chose par rapport à la remarque des parents, c'est que lorsqu'il s'agit de leur premier enfant, parfois ils trouvent tout à fait naturel ce que l'enfant va faire. Et ce n'est que plus tard qu'ils vont découvrir qu'en fait leur enfant était assez exceptionnel. Dès que d'autres petits camarades entrent sur scène, ils verront une différence. Et parfois, bien sûr, c'est le frère ou la sœur.
Une question de Bocarba. J'ai une nièce de 5 ans, nous dit-il. Je pense qu'elle est surdouée. Elle est la dernière à se coucher, la première à se réveiller. Elle joue la grande dame avec ses amis et sait même tenir un débat à 5 ans. Elle n'est pas encore à l'école. Comment est-ce que sa maman doit faire pour qu'elle reste une enfant comme les autres ? Alors, l'histoire là de cette petite fille qui apparemment dort très peu, déjà.
Ah ben les petits surdoués dorment très peu. Ils dorment bien, mais il est vrai que le soir, ils refont le monde dans leur tête lorsqu'ils sont couchés.
Et ils sont hyper vigilants.
Oui, tout à fait. Ceci inquiète parfois les parents parce que ce sont de petits dormeurs. Alors, il existe quelques marmottes parmi les surdoués, bien sûr.
Ceci dit, un petit dormeur n'est pas pour autant un enfant précoce ou surdoué.
Pas nécessairement, mais ça peut
alerter.
Oui. Pour arriver au diagnostic de surdoué, il est important d'avoir plusieurs traits, plusieurs caractéristiques. Mais je repensais au désir de faire que cet enfant soit comme tout le monde, de la normaliser. Alors, j'aimerais comprendre quel est le souhait de cette maman. Est-ce qu'elle craint que, différente, cette petite fille soit mal perçue par les autres ?
Alors oui, ceci dit, qu'elle soit mal perçue, tout simplement qu'elle ait des relations avec les autres.
Oui, mais un petit surdoué peut avoir de très bonnes relations avec les autres aussi.
Qu'elle reste une enfant aussi, d'après ce qu'on a compris.
C'est ça, un enfant précoce surdoué reste un enfant.
Voilà, c'est ça.
Et on va en parler, et il faut jouer avec ses enfants comme avec les autres, mais peut-être pas tout à fait de la même façon. 33 1 84 22 71 71, on parle des petits surdoués aujourd'hui.
De hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Como ela de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Diane, c'est où Georges et chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des enfants surdoués aujourd'hui, comme chaque vendredi. Nous nous intéressons à l'éducation des enfants. Alors, ces enfants-là ne sont pas comme les autres. Et c'est vrai qu'on les élève peut-être un peu différemment, bien qu'en même temps, les parents aient ce désir qu'ils se fondent dans la masse. D'ailleurs, c'est toute une ambiguïté dans l'éducation de ces enfants, hein, Monique de Carmadec.
Tout à fait. D'abord parce que le parent a reçu de ses propres parents des directives, des conseils pour élever l'enfant. Et donc, il se sent... ne pas respecter les règles qu'il devrait respecter. Et un parent d'enfant surdoué ou précoce va devoir faire du à la carte, va devoir s'autoriser à modifier un petit peu son accompagnement et ses règles.
Et c'est justement tout l'objet de cette émission. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Ibrahima est à Sikasso, Mali, je crois. Bonjour Ibrahima.
Et bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons Ibrahima.
Et ma question était de savoir si on est surdoué ou on le devient.
Est-ce qu'on est surdoué ou bien est-ce qu'on devient surdoué, c'est ça, hein? Ouais. Alors,
question. Oui, question très importante puisque la part génétique dans la transmission de l'intelligence est indéniable. Après, il y a le rôle joué par l'environnement qui va favoriser les apprentissages et le développement de cette intelligence. De là à donner des pourcentages précis comme certains essayent de le faire, je suis encore assez sceptique parce que il me paraît très difficile de quantifier la part exacte de l'héritage génétique et la part exacte de l'environnement. Alors, les plus classiques disent 50-50, n'est-ce pas Sophie?
Mais... Oui, et c'est vrai que dans notre livre, on indique bien une étude qui prouve que deux jumeaux qui ont exactement le même QI,
le même quotient intellectuel,
qui ont été séparés l'un de l'autre, l'un ayant été élevé dans un milieu très favorisé et l'autre intellectuellement, enfin, qui est stimulant, et l'autre dans un milieu qu'il n'a pas stimulé, ont une différence de QI au fil des années qui s'accentue. Donc ça prouve bien la part de l'environnement.
Mais la part de la génétique, excuse-moi Sophie, est aussi importante dans la mesure où s'il quitte le milieu stimulant, le chiffre de QI va revenir, semble-t-il, à ce qu'il était au départ.
Oui. Merci Ibrahima en tout cas pour cette question qui est une question effectivement difficile à trancher. Je voudrais vous lire le témoignage d'Ousmane qui est tchadien, qui habite au Burkina Faso, qui nous parle de son petit frère qui a l'âge de 2 ans et nous dit il est plus malin que ses frères aînés, c'est évident. Il manipule les téléphones portables très bien, il prend des photos avec, il met de la musique, il regarde les vidéos, mais il n'arrive pas à bien parler, pourtant il comprend tout ce qu'on lui dit. Est-il surdoué ou pas?
Souvenez-vous, Einstein n'a parlé qu'à 3 ans. Donc, on connaît certains cas exceptionnels d'enfants qui ont parlé plus tard, mais qui, le jour où ils se sont mis à parler, ont parlé de manière tout à fait, je dirais, bien construite, claire, avec un vocabulaire riche.
C'est ça arrive d'un coup dans ce
cas-là. Mais un retard de langage doit quand même inciter le parent à consulter, parce qu'il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir des raisons affectives, il peut y avoir des raisons dans le développement psychologique de l'enfant qui vont contribuer à ce retard.
Alors, c'est étonnant ça, parce qu'en même temps, dans le livre, vous placez toutes les deux beaucoup quand même le langage. C'est quand même ce qui alerte le plus vite les parents, l'entourage, l'école maternelle ou la crèche. Un enfant qui parle très vite, très bien, avec une précision de vocabulaire.
Oui, la précision de vocabulaire, effectivement, on prend l'exemple d'un enfant qui reprenait sa maîtresse à l'école.
Oui, quel âge ça alors? À l'école maternelle?
À l'école maternelle, à 3-4 ans. Non, c'était en première section, je crois. Oui. Et la maîtresse disait, regardez, il pleut. Et lui, non maîtresse, il bruine. Ça avait beaucoup agacé l'institutrice qui m'avait raconté ça.
Oui, mais tous, quand même, on a l'impression qu'ils ont en commun cette faculté du langage, non?
Tout à fait. C'est probablement un des points les plus marquants, c'est cette capacité à s'exprimer.
Pourquoi?
Quasiment comme un adulte.
Pourquoi le langage est au cœur de la précocité intellectuelle, alors?
Alors, ceci montre d'abord une très bonne mémoire, puis une capacité à jongler avec l'information, à la gérer différemment dans des contextes différents.
À l'abstraction,
oui,
aussi,
tout à fait.
Forcément, oui.
Et paradoxalement, ces enfants que vous qualifiez de surdoués précoces, de 6 mois à 6 ans, puisque ça c'est l'objet de votre étude, ont quand même un problème avec les émotions.
Oui, ils sont hypersensibles, peu aptes à supporter les frustrations. C'est ce qui rend les parents d'ailleurs un peu désolés.
Ça peut être des bébés qui pleurent facilement, par exemple.
Oui, on a l'impression qu'ils veulent obtenir très vite tout ce qu'ils souhaitent, sans médiatisation, enfin sans parvenir à attendre. Donc ils sont.
Il est donc important pour le parent d'être très attentif à aider l'enfant à identifier ses émotions, à pouvoir gérer ses émotions. Et ça s'appelle bien évidemment travailler cette intelligence émotionnelle. Or, certains parents, face à l'avance intellectuelle, vont négliger un peu cet aspect du développement de l'enfant. Et cette intelligence émotionnelle, elle, ne s'hérite pas, elle se travaille et on l'accompagne au travers plupart des années. Mmh.
Ça veut dire que l'intelligence du bébé ou de l'enfant hors norme n'est finalement ne garantit pas d'être plus fort par rapport au monde extérieur.
C'est-à-dire qu'il est submergé par tout ce qu'il reçoit. Ouais. Essayez d'imaginer, vous entendez plus fort, vous sentez plus fort, ouais. Vous ressentez plus fort.
On va y revenir justement. Alors vous restez avec nous, Monique de Carmadec, Sophie Carquin, les enfants surdoués de 6 mois à 6 ans, comment les aider à grandir? Dans 3 minutes après le flash.
Autour de la question.
Jean-Yves Casga s'interroge avec nous de façon ludique sur l'évolution de notre humanité et sur les mutations en cours dans nos sociétés. Aujourd'hui,
savez-vous que la puissance d'un seul cumulonimbus est 200 fois la puissance de toutes les centrales électriques de France? Bref, les nuages n'ont rien d'anodin.
Autour de la question.
Jean-Yves Casga.
Du lundi au vendredi à partir de 14h10 TU.
RFI.
Vous écoutez RFI, les midi et demi à Paris, 10h30 en temps universel.
Juliette Rangeval.
Et l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 18 juillet 2014, les questions et les accusations après la catastrophe du vol MH17, l'appareil qui relie Amsterdam à Kuala Lumpur transportait 298 personnes d'une dizaine de nationalités. Il a disparu des écrans hier à 16h15 et s'est crashé près de Donetsk en Ukraine, à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, une zone de guerre. Il pourrait avoir été abattu, la Malaisie est en deuil, 44 Malaisiens se trouvaient à bord. Aux Pays-Bas également, l'avion qui avait décollé de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, 173 des victimes identifiées étaient de nationalité néerlandaise. L'une des grandes questions aujourd'hui concerne donc les circonstances exactes de la catastrophe. Des experts des renseignements américains avancent que l'avion a été abattu par un missile. D'après le ministère russe de la Défense, le système ukrainien de missiles était actif hier, mais l'origine du tir, s'il a bien eu lieu, reste à déterminer dans cette région ravagée par le conflit entre rebelles pro-russes et forces loyalistes ukrainiennes. L'une des boîtes noires de l'appareil a été retrouvée par les secouristes. L'autre serait entre les mains des séparatistes. L'enquête est aux mains du gouvernement de Kiev. Les appels pour une commission d'enquête internationale indépendante se multiplient, de même que se multiplient les appels à un cessez-le-feu immédiat dans la région. Appel lancé par Washington, mais également par la chancelière allemande Angela Merkel. Côté russe, le président Vladimir Poutine appelle à un règlement urgent de la crise en cours. Et en attendant, la plupart des compagnies occidentales renoncent désormais à survoler l'Ukraine. Le premier ministre israélien défend l'assaut terrestre à Gaza, une opération qui vise, selon Benjamin Netanyahou, à frapper les tunnels du Hamas. Il indique aussi que l'assaut va s'intensifier alors que l'entrée des soldats et des chars dans le territoire palestinien a fait au moins 23 morts côté palestinien ces dernières heures. D'après un responsable de l'ONU, 30 000 personnes environ se sont réfugiées dans les installations des Nations Unies dans cette bande de terre surpeuplée. Côté israélien, un soldat a été tué au total. Depuis le lancement de l'opération israélienne il y a 11 jours, deux Israéliens sont morts, un civil et un militaire donc. 265 Palestiniens sont morts également et plus de 1770 ont été blessés. Enfin, le président français est arrivé au Niger. François Hollande se rend ensuite à N'Djamena, au Tchad, pour des visites axées principalement sur la sécurité au Sahel. Enfin, la 13e étape du Tour de France cycliste. Aujourd'hui, le Tour s'attaque aux Alpes, 197 km entre Saint-Étienne et Champs-Rousses. RFI 12h33 à Paris.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Les petits surdoués de 6 mois à 6 ans, pas forcément évident de reconnaître un bébé surdoué. Monique de Carmadec et Sophie Carquin vous publiez un ouvrage sur ce sujet, sachant que d'habitude on s'occupe surtout des enfants surdoués à partir du moment où ils sont scolarisés, où les notes arrivent et où les enseignants s'interrogent sur ces enfants. Toutes vos questions, tous vos témoignages, les voisins et les voisines sur ces enfants surdoués au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec un adulte qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Amadou, je crois que vous nous appelez pour nous raconter votre histoire personnelle, me semble-t-il.
Effectivement. Mm. En fait, c'est ma maman qui m'a raconté ça. C'est lorsque j'étais petit, en fait, à l'âge de 2 ans, quand mon papa allait au travail, et la nuit, en fait, il tardait à revenir la nuit, à 2 ans, je lui disais qu'il faut que j'aille chercher mon père là où il travaille, parce qu'il y a beaucoup d'agresseurs à Dakar, mm-hmm. à l'âge de 2 ans. Et moi, je me rappelle effectivement de ça.
Ah oui, effectivement, c'est singulier. Vous aviez peut-être entendu autour de vous dans les conversations que la nuit, Dakar pouvait être dangereux, je ne sais pas. Enfin, vous aviez quelque chose, une prémonition?
En fait, c'était pas une prémonition, mais normalement, à l'âge de 2 ans, normalement, un enfant de 2 ans ne se rappelle pas de certaines choses.
Oui.
Mais moi, jusqu'à maintenant, je me rappelle à ces heures-là où je passais la nuit sans dormir en disant que je vais aller chercher mon père.
Oui, oui.
Et le mieux, en fait, c'est pas ça. Le mieux que c'est, j'ai fait jusqu'à, en fait, j'ai étudié jusqu'à la classe de C2. À Dakar, on appelle 3e.
Oui, donc vous avez arrêté à 20 avant la fin de l'école fondamentale, de l'école primaire.
C'est ça.
Oui.
Mais actuellement, je suis ingénieur en biologie.
Attendez, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie alors?
Je vais vous expliquer. En fait, j'ai arrêté à C2, j'ai laissé. Il y a un ami de mon père qui était directeur d'un centre national de transfusion sanguine. Oui, j'ai été dans ce centre-là pour être technicien de surface, pour balayer et tout. Mmh. À partir de maintenant, j'ai eu les notions de biologie et tout. Je me suis intéressé à ça. Mmh. J'ai fait un CAP.
Oui.
J'ai fait un CAP sur ça et à partir de là, j'ai commencé à manipuler les produits et tout ça. Mm-hmm. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser sur ça. J'ai fait le CAP. Après le CAP, on m'a introduit dans la fonction publique. Mm-hmm. On m'a recruté dans le centre comme employé. À partir de là, j'ai commencé à échelonner. Mais j'ai constaté qu'à chaque moment, quand je faisais les examens avec les autres qui ont eu le bac S, mm-hmm. parce que normalement, c'est le bac S qui m'amène à faire mm-hmm. ma biologie, je suis sorti major de mon BT mm-hmm. avec des étudiants qui ont fait le bac S. Mm-hmm. Jusqu'à mon cycle ingénieral, je suis sorti 3e de ma promotion.
Ah oui. Donc en fait, vous avez repris des études, mais en autodidacte complet, c'est-à-dire en cours du soir et en étudiant tout seul chez vous, c'est bien ça?
C'est ça.
Et vos parents, sont-ils allés à l'école, Amadou?
Mon papa n'a pas été à l'école, mmh. ma maman n'a pas été à l'école.
C'est pour ça que vous avez arrêté l'école très tôt.
C'est pourquoi j'ai arrêté l'école très tôt.
Vous avez eu le sentiment tout au long de est-ce que vous avez eu le sentiment, Amadou, tout au long de votre vie, d'être intellectuellement différent des autres?
Pourtant, non. Parce que même là où j'étais dans les écoles, en fait, eux, ils ne savaient pas, les étudiants, en fait, la direction, tout ça savait que j'ai pas pris le parcours normal. Mais les étudiants ne savaient pas. Les étudiants me disaient, est-ce que tu as fait le bac S? Parce qu'en mathématiques, tu es beaucoup plus fort que nous en mathématiques.
Oui. Oui, Monique de Carmadec,
je trouve votre témoignage très intéressant et bravo. Vous êtes un exemple parfait de comment on fait lorsqu'on a des atouts intellectuels. Si l'on découvre un sujet d'intérêt et qu'on se donne aussi le temps de travailler, d'acquérir grâce à une discipline les connaissances nécessaires, on peut magnifiquement réussir. Mmh. Je pense que ce que vous venez de dire peut être un exemple important pour de nombreux enfants autour de vous.
Mmh. Mais votre témoignage est quand même tout à fait singulier, voire miraculeux, parce que au Sénégal, comme dans de nombreux pays, rien n'est fait pour des enfants qui ont quitté l'école extrêmement jeunes, comme c'est votre cas, pour retrouver une voie normale et se retrouver un jour diplômé en biologie, comme c'est votre cas.
Effectivement, c'est ça. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que y a beaucoup d'enfants à qui moi je connais, si on leur avait pris en bonne main, je sais qu'il aurait être peut-être beaucoup, il aurait être intéressant.
Mais est-ce que tout au long de votre parcours, est-ce que pour vous ça a été difficile? Il vous a fallu travailler beaucoup? Ou est-ce que finalement vos dons font que ça a été relativement facile de refaire toutes ces études complètement seul?
Moi, ça a été beaucoup difficile pour moi, parce que c'est moi qui travaillais et c'était moi qui payais mes études.
Oui.
Je travaillais en même temps, j'ai payé les études.
Oui.
Et ça a été beaucoup, ça a été très difficile parce que mes parents n'avaient pas les moyens nécessaires. Ça, c'était un obstacle pour moi. Donc j'ai essayé de franchir cet obstacle en me disant que peut-être demain je serai quelqu'un dans la vie, je serai celui que mon père n'a pas pu être parce qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu avoir l'occasion que j'ai eu moi.
Oui, Monique de Kermadec, va intervenir. Attendez une seconde.
Vous soulignez quelque chose de très important, c'est le rôle fondamental que certaines personnes que nous croisons dans notre vie peuvent jouer pour en reconnaissant un talent et en permettant à l'enfant d'investir ce talent. L'ami de votre père a tenu un rôle essentiel pour vous à un certain moment de votre vie et je crois que tous les parents, mais tous les enfants surdoués aussi ou adultes surdoués, doivent ne jamais perdre de vue l'importance de relations, d'un mentor, d'une relation qui permettra d'accompagner un talent. Et parfois, ce ne sont pas les parents, ce sont des personnes autour de nous.
Amadou, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants vous-même ?
J'ai une fille, une petite fille.
Qui a quel âge ?
Qui a 2 ans.
Ah, alors, comment se développe-t-elle ?
Normalement. Je lui envoie mon livre. Elle se développe normalement, comme toutes les autres filles.
D'accord.
J'ai pas vu une marque singulière.
En tout cas, elle n'est pas empêchée de dormir la nuit parce que son père n'est pas là.
Non.
Bon, ouais, en tout cas, bravo.
Elle n'est pas là dans les situations que j'ai pu.
Bien sûr. Bravo pour ce parcours hors du commun, en tout cas, Amadou, à Dakar, donc complètement autodidacte. Monique de Kermadec, est-ce qu'il y a des pays qui savent mieux prendre en compte ces enfants surdoués, pas comme les autres, par rapport à d'autres pays?
Oui, il y a certains pays qui ont eu moins peur de la différence, qui ont plus encouragé, je dirais, un système scolaire souple, un système adapté aux besoins pédagogiques des enfants. C'est vraiment une question de, je dirais, politique quelque part. Est-ce que nous voulons que nous arrivions tous au même point avec le même accompagnement ou est-ce que nous acceptons qu'il y a certains efforts particuliers à faire?
Mais à quoi vous pensez? Quel genre de pays? Avec quel genre de méthode?
Alors, nous savons par exemple, dans les pays anglo-saxons, entre autres aux États-Unis, il existe déjà depuis de nombreuses années des classes pour enfants surdoués. Je sais qu'en Israël, il existe aussi des programmes, qu'en Angleterre, on y est sensible. Nous n'y venons que très progressivement. Mais j'espère que nous allons y arriver, bien sûr.
Tout le monde est voisin.
Il y a quelque chose comme l'idée de créer des passerelles entre les différentes cultures, non ?
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs.
On se sent tout petit finalement.
Très proche en même temps.
Bonjour Emmanuel.
La planète est un immense village, alors c'est bien de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont proches de nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous les 7 milliards de mes voisins qui se trouvent sur la planète Terre.
C'est 7 milliards de destins, 7 milliards d'histoires d'amour.
Ça m'aide, moi aussi, comme beaucoup d'autres, à pénétrer le monde.
C'est 7 milliards de déceptions, c'est 7 milliards de joies, de pleurs.
Ouais.
C'est
l'aventure.
Oui, bonjour.
C'est une extension de la famille dans un sens où on les a au quotidien à côté de soi et c'est bien de les connaître, d'échanger avec eux.
C'est la planète, non? On est 7 milliards sur Terre, c'est ça? Je dis pas de bêtises?
Oui, 7 milliards.
33 1 84 22 71 71. Nous parlons des petits enfants surdoués aujourd'hui. Comment les reconnaître et puis surtout comment les élever, hein, ces bébés de 6 mois à 6 ans qui semblent dotés de facultés hors normes. Vous nous appelez donc au numéro du standard. Nous accueillons Romain Keta Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonjour Romain.
Bon, bonjour.
Nous vous écoutons Romain.
Oui maman, j'ai un enfant de 5 ans. Cet enfant, il a marché et parlé à 2 ans. Quand il était encore vraiment nourrissant, on dirait qu'il distinguait des amis qui venaient à la maison. Il y a des amis, quand ils venaient, ils pleuraient, ils les pointaient les pouces et l'index. Pour les autres amis, il n'y avait rien, aucune réaction. On les recevait, mais il y a 3 amis principalement. Donc, il ne
sentait
vraiment pas la
présence. Donc extrêmement, c'est ça, extrêmement sensible au monde extérieur et au passage des amis à la maison.
Exactement.
Quelle est votre question, Romain?
Bon, ma préoccupation, c'est que du coup de vie extérieure, nous, on ne sait pas comment l'encadrer. Il est vraiment trop éveillé par rapport à son âge, à mon avis. Alors, je voulais vous demander comment élever des enfants pareils Et s'il y a des risques, de le laisser dans le papa, parce qu'il est troisième maternelle. Je l'avais inscrit en première année, quand j'avais trouvé qu'il était trop élevé à la maison. Et même à l'école, on constatait qu'effectivement, il était trop élevé par rapport à son âge. Ouais. On l'a mis, après des semaines, on l'a mis en deuxième.
Ah oui, directement et deuxième année. Oui. De maternelle.
Oui, ouais. Maintenant, il est en troisième.
Maintenant, il est en troisième année de maternelle. D'accord. Bon, alors que faire? Ça, c'est quand même une question qui est quand même assez classique. Hein. Beaucoup de parents se rendent bien compte, hein, comme vous le décrivez, Romain, d'enfants qui ont des capacités bien différentes. Alors qu'est-ce qu'on fait dès l'entrée à l'école maternelle? L'institutrice dit, ça va pas assez vite pour lui. Sophie Carpin.
Il faut se méfier de l'ennui que ces enfants peuvent ressentir et qui peut être le début d'un désamour avec l'école. Et parfois, certains ne s'en plaignent même pas. C'est les plus redoutables, c'est-à-dire des enfants qui vont rester dans leur coin et qui vont regarder Bayou Corneille et voilà. Donc après ça, saut de classe ou pas, ça dépend du rythme de chacun.
Alors le récit de Romain montre l'importance d'un dialogue avec l'école. C'est-à-dire que lorsque le parent perçoit soit de l'ennui, comme Sophie disait, mais perçoit aussi de l'avant chez l'enfant, c'est de voir la maîtresse, de parler avec la maîtresse et de parler éventuellement avec le directeur ou la directrice de l'école pour obtenir, c'est vrai, une accélération de l'enseignement, des notions un petit peu plus complexes abordées avec l'enfant, c'est-à-dire éventuellement obtenir un saut de classe. Si l'école souhaite que l'enfant soit testé pour le faire, l'école le proposera à la famille.
Alors justement, on va en parler dans quelques instants de ces fameux tests de quotient d'intelligence qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Néanmoins, on les trouve sur Internet. Et puis aussi, que faire avec son enfant? Comment jouer avec un enfant pour qui tout va si vite? Dans quelques instants. Up the beat up, fuck what you heard, act like you know, freaks up first, that's how we roll. There you go.
42 71 71.
Nous parlons des petits-enfants surdoués aujourd'hui après Kezia Jones chez 7 milliards de voisins sur RFI 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à David qui nous appelle de région parisienne. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Ben voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre mission et voilà, je voulais un petit peu intervenir à propos de ma petite qui a 3 ans et demi à peu près. Voilà.
Mmh, 3 ans et demi à peu près.
Oui,
vous m'inquiétez.
Elle a 3 ans et 2 mois justement.
Ah, 3 ans et 2 mois, d'accord. Oui.
D'accord, là, déjà bien avant qu'elle parte à l'école, elle nous a sorti des trucs franchement qui nous ont bluffé en fait. Parce que déjà à 18 mois, elle connaissait tous les personnages du paysage politique français. Bon, moi ça.
Attendez, à 18 mois?
À 18 mois, je dis bien.
Oui. C'est-à-dire, elle connaissait les noms des hommes politiques?
De tous les hommes politiques français. Déjà de 1. Bon,
ouais.
Ben, voilà, j'ai essayé de faire la remarque déjà à ce moment. Je lui ai dit, ben écoute, franchement...
C'est-à-dire qu'alors, elle voyait Nicolas Sarkozy à la télévision, elle disait
tout
Nicolas
suite,
Sarkozy.
Tout de suite, et même jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'est Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande, c'est François Fillon, c'est Marine Le Pen. J'ai dit, ben écoute, ben déjà, je ne partais pas à l'école. Durant tout le temps, c'est moi qui m'occupais de la maison. C'est moi qui m'occupe de la maison.
Ouais.
Mais par la suite, voilà, ça enchaînait un petit peu à chaque fois. Voilà. Mais on sortait, c'était des personnages politiques avec. Voilà. Là. Au bout d'un moment, elle repartait à l'école avec la nouvelle ILC, la nouvelle année scolaire et tout. Ça m'intéresse, m'a fait remarquer l'autre fois que, bon, voilà, elle connaissait tous les noms de tous ses camarades en classe.
Mmh.
Voilà, des fois...
Elle est très en avance sur le plan du langage aussi, sur le fait de formuler des phrases.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Et donc, voilà. Et en revanche, elle a un grand frère à qui elle donne des coups de main sur l'ordinateur à chaque fois.
C'est-à-dire qu'elle a déjà compris comment manipuler un ordinateur.
Tout à fait, le mettre en marche, l'éteindre et tout, et choisir effectivement, c'est son petit jeu préféré Dora en fait, à chaque fois.
Ouais. Donc votre question, c'est quoi alors, David?
Ma question en fait, est-ce que ça désigne un petit peu les prémices, un petit peu d'un enfant éveillé surdoué ou encore, je ne sais pas.
Oui, Monique de Kermadec.
Oui, elle semble avoir une excellente mémoire auditive et une excellente mémoire visuelle, parce que pour pouvoir identifier très jeune les personnages politiques, non seulement elle a bien retenu les noms, et elle a aussi retenu les visages. Hein. Vous donnez de nombreux indices qui laissent penser que votre petite fille est vraisemblablement une enfant précoce. Continuez à être attentif et n'hésitez pas éventuellement, bien sûr, à parler lorsqu'elle entrera à l'école de ceci et la tester un peu plus tard.
Alors justement, les tests. Alors David, merci en tout cas pour votre témoignage et vos questions. Hein. Et puis restez bien attentifs à ce qu'on va expliquer, parce que à partir de quel âge on peut faire tester un enfant pour tester son quotient d'intelligence?
Il existe différents tests, mais je dirais que le plus classique et certainement un des plus sérieux, c'est le WPSI 3, WPPSI, 3 en chiffres romains, qui va bientôt devenir le WPSI 4 d'ailleurs.
Parce qu'ils évoluent, ils sont remis à jour.
Les tests sont révisés tous les 10 ans et sont adaptés à de nouvelles populations, puisqu'il est évident que les informations reçues par les enfants changent avec le temps. Si vous réfléchissez à l'information que vos grands-parents pouvaient avoir lorsqu'ils étaient tout petits et ce que vos jeunes peuvent avoir aujourd'hui, il y a un fossé qui sépare ces deux mondes. Donc, le test commence officiellement à 2 ans et demi, et il existe une version entre 2 ans et demi et 4 ans et une autre de 4 à 7 ans. À partir de 6 ans, il y a un test qui s'appelle le WISC-4 qui va de 6 à 17 ans. Pour les tout petits, par contre, j'aimerais mettre les parents en garde, parce qu'un enfant peut être particulièrement éveillé, et je dirais même surdoué, mais ne pas être encore suffisamment scolaire ou tout au moins suffisamment prêt à répondre à la demande d'une personne extérieure pour être performant au test. Donc, souvent, on conseille d'attendre un peu.
D'attendre, c'est-à-dire quel âge du coup?
Mais tout va dépendre du contexte scolaire. Si le contexte scolaire perçoit l'avance de l'enfant et qu'on n'a pas besoin d'un test pour obtenir, je dirais, plus pour cet enfant, comme un passage en moyenne section, ou un passage de petite en grande section, on peut attendre de faire passer un test. Si l'école, par contre, se montre réfractaire, il peut être important à ce moment-là d'avoir l'avance qui est quantifiée et de demander même au pédiatre de mettre un petit mot pour permettre à l'école de bouger.
Quoi qu'il arrive, pas de test avant quel âge?
Je dirais qu'à partir de 4 ans, on a quand même beaucoup plus d'informations. Le test des tout-petits est vraiment un tout premier regard. Il y a 4 épreuves auxquelles on peut ajouter quelques petites sujet d'observation, mais il faut vraiment des circonstances exceptionnelles pour le faire. Mettre une étiquette très tôt sur un enfant va modifier le regard qu'on porte sur lui. Donc, il faut être très attentif à ce choix.
Mais alors, justement, en posant la question dans votre livre, toutes les deux, Sophie Carquin et Monique de Kermadec, la question des enfants surdoués dès 6 mois, hein, est-ce que vous ne participez pas à stresser les parents, à cette obsession collective de la performance aujourd'hui des enfants?
Il y a une obsession collective à laquelle nous cherchons à ne pas participer, justement en encourageant le jeu, la créativité, en disant à quel point c'est important tout ça, mais elle existe.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec son enfant sans justement le surstimuler et tout en tenant compte de ses dons, de ses spécificités quand on sait qu'on a un enfant surdoué?
L'important c'est que le parent soit attentif, qu'il observe, qu'il regarde son enfant, qu'il parle avec son enfant et qu'il apporte à son enfant des sources possibles d'éveil sans chercher nécessairement à faire un génie des mathématiques ou un astrophysicien.
On a parlé précédemment de l'importance de décrypter, l'aider à décrypter ses propres émotions, et là nous on propose beaucoup de jeux, le jeu de la main, chaque doigt représente une émotion, le jeu des, simplement on lui montre des photos de bébés, ça c'est pour les tout petits, hein, pour lui expliquer quel type d'émotion, on regarde celui-là il est vert de rage, il est... Enfin, on essaie de mettre des mots sur ses émotions de façon à ce qu'ils puissent se les approprier.
Ouais, et ensuite les verbaliser, hein, puisque c'est leur fragilité finalement, parfois, les émotions.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On propose aussi des jeux tout simplement de cuisine parce que la cuisine permet d'être à la fois de suivre une recette, on explique à quel point c'est important pour eux d'avoir des limites, justement, et il n'y a pas de créativité, d'avoir des limites dans lesquelles on peut les encourager à être créatifs.
Ouais, sauf qu'une recette, on va faire peut-être plus de maths avec eux qu'avec d'autres enfants.
Oui, peut-être,
non, c'est
plus, ça va les passionner, mais ça reste dans l'univers du jeu. Oui. Le parent ne doit pas devenir le coach, mais...
Justement, alors, centre d'intérêt, est-ce que ces enfants-là ont des centres d'intérêt un peu différents des enfants lambda,
Ils peuvent être parfois monomaniaques. On peut avoir des enfants qui ont des passions et qui, pendant tout un temps, ne vont s'intéresser... les dinosaures sont un grand classique, mais peuvent s'intéresser à toutes sortes de choses. Ça peut être les araignées, ça peut être les fleurs...
Les mondes infini aussi, voilà. On a vu, parce que des domaines dans lesquels ils sont sûrs de ne pas épuiser, en fait. Oui. Donc l'astronomie, les planètes. L'Égypte ancienne. Là, j'ai une maman, justement, qui me confiait que son fils, à 3 ans, la traînait quasiment au Louvre pour aller voir les pharaons. Enfin, c'est ça, ce sont des domaines qui sont sûrs d'explorer pendant des mois.
Le parent a besoin d'être attentif, je dirais, à l'intérêt de l'enfant. Moi, je pense à un tout petit qui de 3 ans qui est venu me voir un jour et qui m'a dit avoir entendu que la Terre tenait en l'air parce qu'elle tournait. Mmh. Et sa grande question après, c'était bien évidemment, que va-t-il se passer jamais elle s'arrête de tourner?
Le parent n'est pas forcément en mesure de répondre à toutes ces questions.
Oui, mais le parent n'a pas à tout savoir. Le parent, dans la mesure où il reconnaît que cette question est valable, que cette question mérite de rechercher une réponse, et que précisément, c'est en recherchant des réponses que nous allons un jour devenir spécialistes et que nous allons chercher d'autres réponses encore.
Donc, on va aller chercher ensemble sur Internet.
Est-ce qu'on va s'écraser ou est-ce qu'on va tomber pour toujours? J'ai une petite fille un jour qui demandait à sa mère, mais comment les pendules connaissent-elles l'heure? Parce qu'après tout, les pendules étaient toujours à l'heure.
Ces enfants-là n'en finissent pas de poser des questions complexes, y compris au moment d'aller se coucher. Alors, l'autorité, justement, les enfants précoces, surdoués, ont tendance à argumenter sur tout, et très bien. Alors, est-ce qu'il faut dire c'est comme ça et pas autrement?
Ce sont des enfants, donc évidemment, il faut leur faire comprendre que ça s'arrête à un moment donné.
Voilà, on ne peut pas parler de la raison de se brosser les dents jusqu'à 4h du matin. On est obligé, bien évidemment, d'être attentif sur des points d'éducation qui sont fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'on donne un ordre et qu'on n'explique pas ou qu'on ne cherche pas à donner un sens à cet ordre.
Une bonne partie, néanmoins, de ces enfants vont ensuite, dans le futur, être en échec scolaire, Monique de Kermadec. Ça aussi, c'est une réalité, alors qu'ils sont surdoués.
Alors, je vais être très brève. Il me paraît important que l'échec scolaire n'est pas une fatalité pour l'enfant précoce. L'enfant précoce évitera l'échec scolaire si le parent lui apprend à travailler, si le parent lui apprend très tôt le sens de l'effort.
Vous reviendrez bien sûr parler des adolescents surdoués et des adultes surdoués. Monique de Kermadec, Sophie Carquin, vous publiez Le Petit Surdoué de 6 mois à 6 ans chez Albin Michel. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour en direct pour une nouvelle émission. À lundi les voisins.